C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, 500 $ pour un billet d'avion aller-retour pour se rendre dans les différentes régions du Québec. Ça commence le 1er juin. Ce matin, on a jasé avec le ministre des Transports, François Bonnardel, pour avoir des précisions. Il y avait un peu de zone grise là, concernant ce nouveau programme. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, notamment pour les régions du Québec? Nathalie?
Ben, c'est une bonne nouvelle, M. Arcan. C'est comme gagner à la loto ce matin. Là. Puis j'ai pensé à mon ami Luc qui rêve peut-être d'aller visiter Blanc-Sablon un jour. Ben, sache, mon cher Luc, que si tu veux visiter Blanc-Sablon en juin, par exemple, tu devrais payer actuellement ton billet 1612 $ en partant de Montréal grâce à ce généreux programme. Mais tu vas payer un maximum de 500 $ et la différence, elle, va être assumée par le ministère des Transports qui va verser ce qui reste aux transporteurs. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Au total, il y a 6 compagnies aériennes qui vont se partager la tarte, une vingtaine de destinations admissibles, desservies par 3 aéroports, Montréal, Québec, Saint-Hubert. Alors c'est un incitatif qui va bien sûr favoriser davantage de tourisme en région, c'est le but, mais aussi qui va améliorer la qualité de vie de tous ceux et celles qui vivent en région, qui sont obligés de se déplacer vers les grands centres, dans peut-être des fois une fois par année, des fois plusieurs fois par année. C'est aussi ça va favoriser également les affaires. Hein? Les affaires, je pense à tous ceux et celles qui sont les hommes et les femmes d'affaires qui sont établis en région, qui doivent souvent prendre leur voiture pour se déplacer vers les grands centres. Alors oui, c'est un incitatif puissant, selon moi, et qui arrive à point sur le plan politique, parce qu'il faut dire que le plan ou le programme de la CAQ pour les régions est plutôt mince.
Moi, je dirais que c'est bon pour les familles, parce que si tu as une famille qui t'attend à l'autre bout, c'est excellent. Hein? Ils viennent te chercher en voiture, tu t'en vas chez eux, tu te promènes avec eux en voiture. Mais si tu t'en vas pour visiter, premièrement, si tu t'en vas pour visiter, tu arrives là-bas, tu arrives aux îles de la Madeleine, tu vas pas rester à côté de l'aéroport. Là. C'est pas ça que tu veux visiter. Tu vas être obligé de te louer une voiture,
ouais.
Te promener. Mm-hmm. Si tu es 4, là, ça fait 4 fois 2000, plus la location de la voiture. Avez-vous vu le prix des locations de voiture pour cet été?
Oui.
Hein? 2000 $ par semaine. Par semaine pour un véhicule qui peut contenir une famille.
Fait que, et le litre d'essence ce matin à 2 $, pas loin.
À 2 $. Fait que toi, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui va pouvoir en profiter. Ça, c'est la première affaire. La deuxième et la plus importante, l'environnement. L'environnement. L'environnement, on en reparlera demain. Pas aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on va parler de troisième lien. Aujourd'hui, on va parler des régions. On va parler de l'inflation. On va parler du développement économique. On va parler du pétrole. On va parler de la Russie. Non, demain, l'environnement, demain. Ben, regarde, la logique de base, c'est que tu prends moins l'avion. C'est ça l'objectif. Et ce matin, j'entendais un intervenant de l'aéroport de Mont-Joli qui disait l'important, là, c'est que les gens s'habituent à prendre l'avion. Qu'on développe l'habitude de prendre l'avion. Non! Non! C'est le contraire! Faut qu'on prenne l'habitude de pas prendre l'avion. Parce que quand tu prends l'avion, c'est le même tarif environnemental, la même production de GES que si tu prends la voiture. Mais par personne. Fait que si t'es 4 dans la voiture, c'est 4 fois moins polluant que l'avion. Point.
Ouais. Mais Luc, t'es mieux d'avoir plus qu'une semaine de vacances si tu veux faire Montréal-Gaspé à vélo, là, parce que honnêtement, ça va te prendre un bout.
Ouais, mais rendu là, t'as pas besoin de louer une voiture, par exemple.
Oui, mais t'es mieux de voyager léger également.
Oui.
Non, mais je comprends ton argument, mais en même temps, Luc, vaut mieux avoir un exemple. Air Canada qui transporte 50 passagers de Montréal vers Gaspé en avion plutôt que d'envoyer 50 voitures sur la route. Tu trouves pas? Il y a des questions de sécurité, de pollution également, de rapidité dans les déplacements. Il me semble que... Parce que là, un des arguments, je sais pas si le ministre a eu le temps de le dire ce matin, Paul, mais un des arguments sur le plan environnemental, c'est de dire, ben, on veut des avions qui sont remplis, ben, l'idéal, c'est à pleine capacité pour éviter justement de trop embourber notre réseau routier. Là. C'est pas un argument qui vaut, ça, selon toi, mon cher Luc?
Non. Non, tu sais bien que moi, pour moi, l'argument qui vaut, c'est l'environnement. C'est l'environnement, merci, bonsoir. Mais Paul me disait tantôt que peut-être qu'Air Canada ne serait pas considéré dans le deal.
On m'a dit qu'Air Canada était dans le...
Ce que le ministre nous a dit, c'est que pour faire partie du programme, il faut que le transporteur assure des liaisons 12 mois par année.
Exact.
Dans le cas des îles, par exemple, ils font ça quelques mois par année seulement.
Ah.
Donc, il ne serait pas admissible. Air Canada est admissible en principe dans la mesure où, pour la destination visée, le service est offert toute l'année.
Alors, ça va peut-être inciter Air Canada à améliorer sa desserte vers les îles de la Madeleine. Mais clairement, la nouvelle est accueillie de façon générale, je dirais pas dans la joie, l'allégresse, mais de façon positive, parce que c'est une mesure concrète. Maintenant, on dit toujours que le diable se cache dans les détails. Il y a plusieurs...
Oui, as-tu vu ça, les détails, un matin, dans Radio-Canada, qui ont été émis? Oui.
Ah, l'angle mort, ben c'est effectivement premier arrivé, premier servi. L'autre chose, lorsque le ministre t'a dit, Paul, ben c'est pas vrai que dans un avion, il va y avoir, par exemple, moi qui va payer 500 $, puis Luc qui va payer 900 $ pour son billet. Ça, j'avoue que ça va commander plus de précision, parce que ça voudrait aussi dire qu'un transporteur, comme Pascan, par exemple, qui opère des avions à 19 sièges, est à l'année d'une subvention qui couvre 100% de ses sièges chaque fois qu'il fait un vol vers Bonaventure, par exemple, ou vers Gaspé, vous comprenez? Ça
mais la
ça
question, toi qui viens des régions, là,
oui.
Est-ce que tu penses qu'avoir un tarif, non seulement, parce qu'il y a deux volets, là, ou trois même volets, ça va améliorer les échanges familiaux, donc les gens vont retourner dans leur région en vacances ou en visite, peu importe, que les Québécois vont prendre l'avion pour se rendre quelque part au Québec, puis est-ce que les gens d'affaires vont utiliser l'avion pour se rendre dans les grands centres? Parce que c'est comme trois enjeux, là.
Ouais, mais ça dépend où tu pars. C'est si je suis allée justement à Pâques là à Maria dans mon village en Gaspésie, j'aurais pas pris l'avion. Je prends l'auto parce que j'estime que c'est plus pratique prendre la voiture pour toutes sortes de considérations. Puis ça me coûte à la limite moins cher actuellement. Oui, ça me coûte moins cher. Ça m'a coûté, je sais plus combien d'essence, mettons 200 $ d'essence aller-retour, mais ça m'aurait coûté plus cher pour mon billet d'avion. Alors si ton incitatif a besoin, si tu vas avoir un impact avec ton incitatif, il faut que ce soit plus avantageux de prendre l'avion. Par exemple, si tu vas à la Blanc-Sablon, là, probablement que c'est plus incisaillé. T'as pas intérêt à prendre ton auto pour faire le voyage, mais à prendre l'avion. Même chose pour aller aux îles de la Madeleine. Tu vas faire un gain, tu vas faire un gain sur le plan du temps, sur la qualité également de ton voyage. Alors, ça dépend où tu te déplaces. Mais moi, je trouve que c'est un bon départ. Cet été, je pense que ça va marcher fort. J'ai bien hâte de voir, par contre, le restant de l'année dans les périodes morte. Est-ce que là, si les avions vont être aussi remplis qu'ils risquent d'être remplis cet été, je suis pas certaine.
Luc, moi, je trouve que si le gouvernement élevait un ado, ça serait un ado gâté, un enfant gâté.
Pourquoi tu dis ça?
Parce que le gouvernement, les cadeaux, les petits cadeaux, l'immense légèreté de l'âme. Comment il appelait ça dans le livre?
L'insupportable
légèreté de l'âme.
Milan Kundera.
Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi ça? Un petit cadeau quand on est arrivé au pouvoir, les stationnements autour des hôpitaux vont être moins chers. Là, un autre petit cadeau. Là, quand on part, là, vous allez avoir des billets à 500 $. Hey, lis le livre, là, c'est écrit moins d'avions, OK? C'est plus de contraintes.
Le
GIEC, les ententes de Paris. Ils ont signé les ententes de Paris. Lis l'entente que tu as signée, OK? Tu l'as signée, lis-la. Puis lis-la après, tu n'as pas eu le temps de la lire avant, mais lis-la après quand même. Puis tu regarderas qu'il y a des pays dans le monde qui font tout pour réduire le nombre de correspondances interne, notamment la France. Quand il y a eu le package d'aide, pour sauver les compagnies après la pandémie, ils ont dit oui, mais il n'y aura plus de déplacements de 200 km et moins pour les avions parce que ça pollue trop. Si on fait un package d'aide, est-ce qu'on aurait pu dire oui, mais on vous demande telle chose en échange? Une petite contrainte, un petit quelque chose qui va par en avant. Eux autres, c'est non. Nous, c'est cadeau.
Non,
nous,
mais
c'est...
Lui...
Oui, où le papier d'emballage?
Il y a un élément que tu oublies dans ton équation. C'est que le Québec, c'est grand, puis il faut occuper notre territoire. C'est fondamental. C'est pas vrai que le Québec, ça se résume seulement à la dimension urbaine. C'est pas vrai que l'avenir du Québec réside dans Montréal, Québec et ses grandes villes. C'est pas vrai, ça. Donc, il faut occuper notre territoire.
Ah,
il y a
ça, c'est un bon
ça.
Point. J'aimerais ça en parler avec toi dans une autre chronique.
Il y a un coup à ça, puis il y a d'autres régions dans le monde qui desservent, qui assurent une desserte aérienne de façon minimale aux États-Unis, en Australie, en Europe. Pourquoi? Parce que tu dois, pour occuper ton territoire, il faut que tu y aies accès. Alors, c'est pour ça que tu as des compagnies comme Air Québec, Air Inuit, tu as des compagnies qui vont jusqu'à Blanc-Sablon, aux Îles-de-la-Madeleine. Ça prend ça, Luc. Tu peux pas. C'est des infrastructures hautement stratégiques.
On s'arrête là-dessus. Et au retour, pourquoi le gouvernement a pris 3 ans à reconnaître la crise du logement? Réponse probable, il aurait dû investir avant. Une fois que tu le reconnais, t'aurais été poigné pour mettre l'argent plus rapidement. On en parle tout de suite après la pause.
La commission Normando-Ferrandaise.
Deuxième sujet ce matin, le gouvernement reconnaît enfin qu'il y a une crise du logement. Plusieurs villes au Québec qui ont des taux de logement disponible en bas de 1 %. On a parlé beaucoup, évidemment, de manque de logement puis de l'effet sur les prix. Premier constat, est-ce qu'une fois qu'on a dit ça, il est trop tard pour changer la réalité?
Luc. Et c'est clair. Comment ça se fait qu'il a entendu la fin du mandat? Et d'ailleurs, c'était pas un aveu complet, là. C'était oui, dans certaines régions, dans certaines villes. Wow. Dans les villes de 40 000 habitants et plus, là, c'est la quasi-totalité, là. Avec des taux de disponibilité de logement de 0,1, pas 1 %, là, 0, 1 dixième de 1 % de disponibilité dans plein de villes. Et ça, une crise de cette ampleur. Le logement qui reste là à 0,1, là, il est insalubre, trop cher, inondé, whatever. Là, il n'est pas louable. C'est... Quand les étagères sont vides puis il reste un pain, demande-toi qu'est-ce qu'il y a de l'air, le pain. Là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la crise du logement, c'est pas juste une crise du logement, elle a un impact direct sur l'emploi. Il y a plein de municipalités qui disent « Je ne suis plus capable d'attirer du monde parce que il n'y a pas de logement. À Saint-Sauveur, il y avait un reportage là-dessus récemment. Pas capable d'attirer des aides en boulangerie, des gens en restauration. Ça coûte juste trop cher. Et aux États-Unis, c'est un phénomène documenté. Dans les villes où il n'y a pas de logement, on n'arrive pas à trouver des employés. Les gens décrochent pas juste parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Ils ne veulent plus travailler. Moi, je vais travailler pendant 40 heures par semaine, puis je ne serais pas capable de me payer un logement. Le logement abordable moyen a été calculé à Montréal par la SCHL à 2250. Fais le calcul puis demande-toi quelle profession peut se payer ça. Et ça, c'est le modèle québécois qui vient de casser, là. Parce que si... Le modèle québécois, c'est quoi? C'est que tu acceptes un job. Tu n'acceptes pas un job de broker, là. Tu acceptes un job infirmière, travailleur social, enseignante, parce que tu sais que tu vas être capable, avec ce salaire-là, d'élever une famille, de payer un logement. Si tu n'es pas capable, tu ne la feras pas.
Nathalie.
Tout d'abord, la ministre responsable de l'habitation, Audrey Laforêt, souffle le chaud, le froid. Comme tu l'as dit, Luc, elle reconnaît d'un côté qu'il y a une crise du logement. D'ailleurs, ça lui a pris les données de la SCHL pour le reconnaître. Mais de l'autre côté, elle dit la situation sous contrôle. La situation sous contrôle pour qui? Lorsque tu es mère monoparentale, père monoparental, tu cherches un logement, puis que tu n'as pas 1 500 $ et plus à consacrer à ton logement, ça résonne d'une drôle de façon. Parce que la crise qui touche le Québec, c'est une crise à la fois d'accessibilité et d'abordabilité, et les deux sont intimement liés. Parce que, effectivement, si tu as 2 000, 1 800, 2 000, 2 500 $ à consacrer à ton logement, tu n'en auras pas de problème. En tout cas, du moins, tu n'en auras pas de problème ni à Montréal ni ailleurs au Québec. Par contre, si tu n'as pas cette somme-là à consacrer, là, tu es mieux de te lever de bonne heure. Et la ministre, en le fond, elle dit pour ce qui est du logement abordable, du logement social, pour ce qui est des locataires, elle dit que les municipalités présentent des projets. Au rythme où on construit au Québec, ça va prendre 50 ans avant de résorber la crise. Je suis pas certaine que dans 50 ans, on va l'avoir résorbé. Pour ce qui est des propriétaires, la ministre pourrait bouger rapidement. Parce que c'est deux enjeux, l'accès à la propriété. Là, il y a des éléments sur lesquels le gouvernement peut plus ou moins intervenir. Mais à très court terme, là, d'ici la fin de la session, la ministre pourrait très bien adopter deux mesures via un projet de loi. À chaque session, la ministre des Affaires municipales ou le ministre des Affaires municipales dépose ce qu'on appelle un projet de loi omnibus, dans lequel il y a une multitude de dispositions. Alors, elle pourrait modifier la fameuse clause F du bail, qui dit que pour des immeubles bâtis il y a moins de 5 ans, les propriétaires peuvent augmenter le prix du loyer comme bon leur semble. Elle s'est engagée, la ministre, en février dernier, à modifier cette clause du bail. Elle pourrait le faire dès maintenant. Et l'autre chose, elle pourrait imiter l'Ontario qui vient de décider d'amender la loi pour obliger les vendeurs et les courtiers immobiliers à dévoiler toutes les offres d'achat qui sont déposées lorsque les gens font la file pour acheter une propriété. Ça pourrait faire ça très, très, très rapidement. Là, ça ne prend pas un livre blanc, ni une commission parlementaire, ni un comité pour y arriver. Là.
Oui, et puis après ça, dans le moyen terme, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est développer un plan de construction de logements. Le plan qui a été déposé par Québec, 300 millions d'aides pour faire du logement abordable. Donc, c'est de l'aide qu'on donne à des constructeurs pour qu'ils réservent des unités à des prix qui évolueront de façon fixe. Mais encore là, ça va être des prix au prix médian. Là. Le prix médian du logement calculé par la SCHL, 2250, c'est ça, le prix abordable.
Et là, j'ai une question bien simple.
Ouais.
Toi qui connais Montréal, là.
Oui.
Montréal a besoin de combien de logements, là? Un, puis deux, qui doit les construire, le privé ou le public?
Bon, premièrement, Montréal a besoin, je dirais, environ 70 000 logements tout de suite. Parce que les besoins, c'est autour de 100-150 000. La région de Montréal en a besoin de la moitié du Québec. Et qui doit les construire? Ça peut être le privé, mais avec des plans de développement. C'est-à-dire, Puis ça, c'est important. C'est-à-dire, là, en Ontario, tu vois, puis Poilievre demande a évoqué ça, là, Ford a décidé, on veut des logements, il n'y aura plus de règlement, tu peux construire n'importe quoi, n'importe où pour en faire le plus possible, en hauteur, whatever. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire où on a fait ça. Là. Quand tu te promènes, sur le plateau Mont-Royal, par exemple, à un moment donné, tu vois des tours. Une tour devant le parc La Fontaine. Oups, c'est tout des trois étages, une tour. Puis après ça, tu te promènes sur Rachel, oups, un gros building. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il manquait de logements, puis on a aboli les règles, on dit, vas-y, construis. Et, mais il ne faut pas faire ça. Il faut construire de la densité qui va quand même donner un quartier où les gens vont rester. Il faut que les familles restent. Si tu décides que tu vas rester là juste 3 ans parce qu'il y a du bruit, il y a du vent, il y a de l'ombre, c'est trop petit, il manque une chambre, tu vas finir par t'en aller, tu n'auras pas réglé la crise du logement. Il faut que tu crées un logement qui est ouvert en avant, ouvert en arrière, balcon en avant, balcon en arrière, rangement pour les vélos, rangement pour tout ce qu'une famille crée, une pièce par enfant minimum, ben pas minimum, mais au moins une pièce par enfant, au moins les enfants qui ont grandi. Là, tu vas avoir un vrai logement avec des vraies caractéristiques. Là, les gens vont rester. Fait que la ville, il faut qu'elle mette ses conditions. Or, les règlements sur la construction ne permettent pas d'établir ce genre de conditions.
Oui, ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, il faut que le gouvernement change les critères aussi. Parce que, Luc, c'est beau parler de densité, mais densité, c'est quoi pour toi? C'est 3 étages, c'est 4 étages, c'est 5 étages. Tu vas me dire, ça dépend peut-être de la configuration du quartier.
C'est ça.
Mais l'autre chose, ça prend des critères beaucoup plus souples. Même chose pour une municipalité qui lève la main pour construire du logement abordable ou de l'accès logique sur son territoire. Souvent, la contribution du milieu qui est demandée, c'est 20%. C'est beaucoup trop élevé. On a modifié ces règles-là dans le passé. Malheureusement, ça n'a pas tenu la route. Alors, le gouvernement, c'est beau dire, ben, on va lancer un appel pour on invite les gens à déposer des projets. Si les critères ne sont pas adaptés à la réalité, il ne s'en construira pas de logement. C'est pas vrai, là. Alors, là-dessus, le gouvernement a une responsabilité.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.